RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, le retour de la fin de vie à l'Assemblée nationale avec deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Victorien Vuillaume nous explique tout ça dans un instant. Un rapport parlementaire sur la soumission chimique a été remis ce lundi, 5 mois après le procès des viols de Mazan. Il demande à l'exécutif de débloquer des moyens pour, dès cette année, améliorer la prévention de la soumission chimique et aussi l'accompagnement des victimes. Il demande aussi le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation. Les zones à faible émission en discussion à l'Assemblée nationale, des ZEF censés écarter les véhicules les plus polluants des villes. Le gouvernement prévoit d'alléger le dispositif en l'abandonnant pour tout le territoire, sauf pour Paris et Lyon.
RFI.
Dans une douzaine de minutes, nous avons rendez-vous avec Léviathan, une pièce de théâtre qui s'intéresse aux rouages de la justice, plus précisément aux comparutions immédiates. Et puis nous verrons avec Caroline Paré et son invité comment sont considérées les femmes qui ne veulent pas d'enfants.
24 heures en France.
La fin de vie a fait ce lundi son retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'an dernier, le président Emmanuel Macron avait présenté les grandes lignes d'une loi finalement bloquée par la dissolution de l'Assemblée. Le texte est donc de retour, mais scindé en deux par le Premier ministre François Bayrou. Un texte sur les soins palliatifs, un autre sur l'aide à mourir. Et c'est évidemment celui-là qui provoque les débats les plus vifs jusqu'au sein du gouvernement. Pour lancer ce qui devrait être 2 semaines de discussions intenses, il y a d'abord eu la discussion générale commune. Victorien Vuillaume l'a suivi pour nous.
Pas de grands éclats de voix. Pendant 3 heures, plus de 20 députés expriment tour à tour leur point de vue, avec d'abord le rapporteur général du texte, le député Modem, Olivier Falorni.
Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité.
Au sein du gouvernement, c'est la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui défend le texte.
Depuis plusieurs années, cette question traverse notre société. Comment mieux accompagner celles et ceux qui approchent de l'inéluctable? Comment leur offrir la fin de vie la plus digne possible? Ces questions dépassent largement les clivages partisans.
La ministre réaffirme qu'elle souhaite mettre d'importantes restrictions, mais ce discours ne prend pas du côté des opposants à l'aide à mourir, droite et extrême droite en tête, la députée UDR Anan Mansouri.
Le texte qui nous est soumis considère l'euthanasie comme une réponse possible. Mais que signifient ces termes au fond? Qu'est-ce qu'une souffrance réfractaire? Comment décider qu'une vie ne vaut plus d'être vécue?
Et voilà qui montre, s'il le fallait encore, la complexité du sujet. Les députés Philippe Vigier et Cyril Isaac Sibille défendent dans l'hémicycle des positions tout à fait opposées. Ils sont pourtant tous les deux dans le même parti, le Modem.
Victorien Vuillaume, Gérard Depardieu va être fixé sur son sort ce mardi. L'acteur français de 76 ans est accusé d'agression sexuelle par 2 femmes qui travaillaient à ses côtés sur un tournage. Fin mars, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis, mais aussi une obligation de soins psychologiques et l'inscription de l'acteur au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Ce jugement est très attendu dans un contexte de MeToo cinéma et de dénonciation des abus sur les plateaux, et puis aussi après un procès très médiatisé. Marie Cazadebé.
Au cours d'un procès exceptionnellement long pour des faits d'agression sexuelle, 4 jours, la version de Gérard Depardieu a sensiblement évolué. Alors qu'une décoratrice l'accuse de l'avoir coincé entre ses jambes, de lui avoir malaxé le ventre et la poitrine, tout en lui tenant des propos à connotation sexuelle, l'acteur nie d'abord tout contact physique, puis il évoque un geste malheureux pour éviter de tomber et enfin précise l'avoir simplement frôlé dans un couloir étroit. Être l'auteur d'agression sexuelle, ça non, le comédien l'a toujours contesté, d'autant que de son propre aveu, il ne sait pas vraiment ce qu'est une agression sexuelle. Mais ce n'est sûrement pas cela, lâche-t-il à propos des faits dénoncés par les 2 plaignantes. Tout au long de ce procès, c'est le portrait d'un homme vulgaire, à l'insulte et la blague graveleuse facile, craint sur le plateau qui s'est dessiné, un homme dépassé par son temps, reconnaît-il. Sa propre défense est ambiguë, il répète préférer travailler avec des hommes en loge, car avec les femmes, selon ses mots, il y a toujours des problèmes.
Marie Cazadebé, 5 mois après un autre procès, celui des viols de Mazan, a été remis ce lundi un rapport parlementaire sur la soumission chimique. Il appelle l'exécutif à débloquer des moyens pour améliorer la prévention de la soumission chimique, mais aussi l'accompagnement des victimes, et ce, dès cette année. Le procès de Mazan a créé un électrochoc, la société entière nous regarde. insisté la co-rapportrice du rapport, la députée MoDem Sandrine Josso. Dans le détail, le texte comprend une cinquantaine de recommandations. Plus de 100 personnes ont été entendues pour les élaborer. Parmi elles, des victimes et proches de victimes qui étaient présentes à la remise du rapport. Elisa Savat les a rencontrées.
Pour toutes les victimes présentes dans la salle, il était urgent d'agir. Adèle se remet toujours de ce qui lui est arrivé il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle a l'impression d'être entendue.
Ça a été un immense soulagement de pouvoir témoigner dans le cadre de cette mission, d'être mis en lien avec d'autres victimes, avec potentiellement des avocats spécialisés dans le domaine.
Une meilleure prise en charge et le plus tôt possible après un acte de soumission chimique, c'est primordial pour Hélène et cela passe par...
Pas de file d'attente pour les prélèvements, que ce soit immédiatement fait et que, évidemment, on ne refuse pas à une victime de faire ses prélèvements, qui est dépôt de plainte ou pas.
Prévenir et former les citoyens au risque de la soumission chimique, c'est un point essentiel du rapport pour Aurélie.
La campagne de sensibilisation est hyper importante. Je trouve ça fondamental pour que justement, au niveau du grand public, on soit tous alertés, pour qu'on soit plus solidaires, attentifs à notre voisine, à notre voisin, en milieu festif, en milieu intime, familial. Que la soumission chimique soit quelque chose qui soit vraiment commun et qu'on l'ait en tête.
Autre formation indispensable, celle du personnel soignant et policier, peu sensibilisé à ce fléau. Une autre des 50 recommandations visant à lutter contre la soumission chimique.
Un reportage d'Elisa Savat. L'Algérie a décidé d'expulser 2 nouveaux fonctionnaires français, 15 en tout. La France promet de répondre de manière immédiate, ferme et proportionnée. Bref, la crise diplomatique s'aggrave entre les deux pays malgré la tentative de réconciliation du mois d'avril. Dimanche, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, indiquait que la relation bilatérale restait totalement gelée. On va maintenant s'intéresser aux CRA, les centres de rétention administrative. Plusieurs associations chargées de conseiller juridiquement les étrangers placés dans ces centres craignent d'être évincées, car ce lundi est arrivée au Sénat une proposition de loi visant à les remplacer, au profit notamment de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui dépend du ministère de l'Intérieur. Sylvie Coffi.
Elles sont 5 associations à intervenir dans les centres de rétention sur l'Hexagone et dans les Outre-mer. Mandatées par l'État, leur rôle est d'aider sur le plan juridique les personnes étrangères privées de liberté et d'alerter aussi la société civile sur ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Mais les sénateurs qui veulent mettre fin à leur mission leur reprochent leur absence de neutralité. Fanélie Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD, l'une de ces associations.
On explique notamment que les associations seraient responsables d'une massification des recours. Or, s'il y a beaucoup de recours, c'est parce que les obligations de quitter le territoire français sont délivrées de manière massive et sans aucun discernement à de nombreuses personnes étrangères en situation irrégulière. Et donc, elles sont annulées par les juridictions, puisqu'il faut bien rappeler que les associations ne sont aucunement décisionnaires dans les suites des demandes qu'elles font pour les personnes étrangères.
Une proposition de loi inquiétante.
C'est une dégradation de l'accès aux droits des personnes qui sont enfermées dans les CRA et également un recul très dangereux pour notre démocratie.
Une autre mesure déjà adoptée en première lecture par le Sénat vise à étendre la durée maximale de rétention à 210 jours aux étrangers condamnés pour un crime ou un délit.
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné un journaliste du magazine Le Point, Aziz Zemmoury, à 4000 euros d'amende. En 2022, il avait accusé à tort les 2 anciens insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, d'avoir employé une femme de ménage sans papier.
Paris, 89 FM.
Autre procès, celui de l'ancien rebelle salafiste syrien Majdi Nema. Il est accusé de complicité de crimes de guerre entre 2013 et 2016, et notamment d'avoir recruté des mineurs au sein du groupe armé Jaïch al-Islam. Majdi Nema était interrogé ce lundi à la cour d'assises du palais de justice de Paris, et il a campé sur ses positions « je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse ». Compte rendu d'audience, Amélie Beaucourt.
Le président de la cour d'assises a tenté de comprendre le degré d'implication de Majdi Nema, alias Islam Alouche, au sein de Jaïch al-Islam. L'homme se décrit comme porte-parole, occupé aux relations publiques. Vous deviez donc avoir accès à un certain nombre de renseignements, questionne le président. Haussement d'épaule de l'accusé, toute la journée, désinvolte, il évite les réponses catégoriques. Un reportage de la chaîne d'information Al Jazeera sur les camps d'entraînement de combattants le montre en treillis militaire. Sur le bandeau sous-titré, on peut lire « Islam Alouche, capitaine de l'armée ». Si vous n'êtes qu'un simple porte-parole, comment justifiez-vous ce titre et les étoiles sur votre uniforme ? Interroge Marc Bailly, avocat des parties civiles. « Tout ça, c'est juste pour la propagande », répond-il. Accusé d'avoir recruté des mineurs dans ce groupe armé, il est confronté à une seconde vidéo dans laquelle des jeunes, visages d'adolescents, paradent, armes à la main. Des images tournées, selon lui, après sa démission de Jaïch al-Islam. Le témoignage vidéo d'un des habitants de la Ruta orientale viendra l'accuser à nouveau d'avoir enrôlé des enfants sous la menace. « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je ne connais pas cet homme », répondra-t-il, l'air indifférent.
Amélie Beaucourt, on termine ce journal avec les ZFE, les zones à faible émission. Le dispositif est censé écarter des villes les véhicules les plus polluants pour améliorer la qualité de l'air. Mais il est critiqué pour son impact sur les ménages les plus modestes qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir une voiture moins polluante. En ce moment, le sort de cette réglementation est en discussion à l'Assemblée nationale. Et à un an des élections municipales, c'est un sujet sensible. Ce lundi, le gouvernement a voulu répondre aux critiques. Les personnes modestes seront accompagnées financièrement et le dispositif est abandonné pour tout le territoire, sauf deux villes, Paris et Lyon. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Les agglomérations qui dépassent encore régulièrement les seuils réglementaires de qualité de l'air, donc aujourd'hui Paris et Lyon, seront celles qui seront soumises à l'obligation d'instaurer des restrictions légales de circulation des voitures les plus polluantes. Pour toutes les autres, ces règles seront totalement à leur main, même si nous continuerons à suivre leur feuille de route de qualité de l'air. Les Françaises et les Français doivent être accompagnés et de même, il nous appartient de déployer des soutiens financiers qui permettront à ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture ou encore des véhicules très anciens de pouvoir trouver des solutions les plus rapides possibles aux côtés de l'ensemble des collectivités locales.
Des propos accueillis par Elissa Mokadim. Enfin, l'artiste Lynn Renaud, chanteuse, comédienne, meneuse de revue, 96 ans quand même, a fait don de ses archives à l'État, soit 40 tenues de scène, des milliers de partitions et de photos, 100 000 lettres. Cela s'est fait ce lundi lors d'une cérémonie au ministère de la Culture. Parmi les partitions, évidemment, celle du tube, Ma cabane au Canada. Et parmi les lettres, sa correspondance privée avec des malades du sida et leurs familles. Lynn Renaud, on s'en souvient, avait été à l'origine de la première mobilisation médiatique contre le sida en France, lorsqu'elle avait créé en 1987 l'Association des artistes contre le sida.
24 heures en France, Christophe Paget.
On va sortir un peu pour du théâtre, un théâtre qui s'intéresse au rouage de la justice. Dans Léviathan, la metteuse en scène Lorraine de Sagazan s'attaque à la comparution immédiate, lors de laquelle on juge vite et souvent à la chaîne. Sur scène, un tribunal reconstitué où les comédiens rejouent des audiences inspirées de vraies affaires. Lorraine de Sagazan nous explique tout ça au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Monsieur, pour la suite des échanges que nous allons avoir, vous aurez la possibilité de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations.
Je répondrai à toutes les questions.
Si monsieur,
Lorraine de Sagazan, bonjour.
Bonjour.
Dans Léviathan, on a un décor qui évoque un chapiteau de cirque et des prévenus qui sont présentés devant un juge. On est dans un tribunal de comparution immédiate. Qu'est-ce que c'est, Lorraine de Sagazan ?
Alors, la comparution immédiate, c'est une procédure expéditive qui, en quelques minutes, juge des délits. Ils vont se faire juger. C'est une véritable justice de classe aussi, ce qu'on essaie de montrer dans le spectacle, puisque la plupart des personnes qui comparaissent en comparution immédiate sont majoritairement des hommes, très majoritairement, mais aussi des gens extrêmement précaires.
Dans Léviathan, vous produisez trois exemples précis. Une femme qui a volé pour quelques centaines d'euros de vêtements, mais qui les a rendus. Un homme qui a fait quelques dizaines de mètres sur une moto sans casque et sans avoir son permis. Et puis un troisième qui est un SDF et qui a menacé de cramer, entre guillemets, le foyer dans lequel il était. Ils vont tous prendre des peines de prison ferme. Donc c'est la justice de classe dont vous parliez. Est-ce que ce sont des cas précis ?
Oui, en tout cas, tout est vraisemblable, dans le sens où on est allé avec toute mon équipe en comparution immédiate, donc on a passé énormément de temps au tribunal. Moi, ça a été donc une recherche que j'ai menée pendant quasiment 3 ans, très accompagnée, c'est-à-dire il n'y a pas d'élucubration, tout existe vraiment.
Monsieur reconnaît quasiment tous les faits qui lui sont reprochés. Il nie, en revanche, avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des fonctionnaires de police. Créditons-le. Pourquoi nierait-il les menaces et pas les insultes ? Ça ne fait pas sens. J'ai par ailleurs une première difficulté. difficultés, j'ai du mal à comprendre.
Lorraine de Sagazan, est-ce que vous avez aussi parlé à des juges ?
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on voit bien que, comme toutes les institutions françaises, l'institution judiciaire connaît un état de délabrement terrible. Donc, manque de moyens, qui génère un manque de temps. Quand on va en comparution immédiate, c'est terrible. Une exaltation de la punition, une logique de la punition, alors qu'on sait très bien que on n'a jamais été aussi répressif en France, alors que les taux de délinquance, les taux de criminalité diminuent.
Vous avez voulu faire un spectacle total, et entre autres en faisant chanter, et ça c'est vraiment extraordinaire, parce que vous faites chanter les juges, vous faites chanter les avocats, vous faites chanter les prévenus aussi, et du coup ça apporte un éclairage qui permet aussi de montrer sans doute les rouages de l'institution, de les mettre à nu.
Je pense qu'on assiste en ce moment à un appauvrissement des formes. Je pense qu'on est très inspiré, très envahi par des images, par des formats, de toutes les plateformes que l'on connaît. Enfin, je veux dire que moi, je peux tout à fait regarder des séries, des films, etc. Mais c'est très important pour moi d'être en recherche sur la forme. Donc ça, c'est un travail qui prend énormément de temps, en effet. Le chant, moi, ce qui m'intéresse dans le chant, c'est qu'à l'origine, le chant, c'est quand même la sublimation du cri. Et donc, dans les tribunaux, ce qui ne peut pas être dit parce que ça n'est plus pas entendu, paradoxalement, ça ajoute de la violence, on entend différemment l'absurdité de la comparution immédiate, et en même temps, c'est pour ces personnages une manière de s'exprimer parce qu'ils ne peuvent plus simplement parler.
Lorraine de Sagazan, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci.
Léviathan de Lorraine de Sagazan se joue au théâtre de l'Odéon jusqu'au 23 mai, tournée ensuite à Marseille, Dijon, Le Mans ou encore Clermont-Ferrand.
Reportage France.
C'est le scandale sanitaire de ce début du 21e siècle. Les PFAS, ces polluants éternels que l'on retrouve dans nos objets du quotidien et qui ont de multiples effets sur la santé humaine. En France, une loi a été votée en février pour interdire les cosmétiques, les vêtements ou encore les chaussures qui en contiennent à partir de 2026. Mais pour les habitants de la vallée de la Chimie, dans le centre-est de la France, près de Lyon, cela ne suffit pas. Dans cette région, 220 000 personnes sont potentiellement concernées par la pollution au PFAS. Et plusieurs ONG ont lancé une action judiciaire de masse pour aider les habitants. Reportage, Juliette Pietraszewski.
Là, c'est le centre d'essai et derrière, c'est Daikin avec ses ateliers qui ont des PFAS.
Thierry Mounib habite Pierre-Bénite, dans le sud de Lyon. Face à lui, les usines Daikin et Arkema.
Si on se retourne, là, donc, on a les stades de foot. Vous voyez le tour en longueur, là, c'est l'école maternelle. On a fait des prélèvements, là, sur l'école maternelle. C'est une catastrophe.
Avec son association Bien Vivre à Pierre-Bénite, Thierry Mounib alerte sur la pollution de son environnement et sur des problèmes de santé dans son entourage, des problèmes qu'il soupçonne être liés au PFAS.
Ma femme a été opérée d'un cancer du sein, et elle a Parkinson. Autour de moi, dans toutes les maisons, il y a des cancers. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé quand c'était prouvé? Les entreprises 3M et Dupont de Nemours ont été obligées de verser des milliards pour le suivi de la population. Là, Arkema et Daikin, ils refusent. Hein. Ils ne vont pas verser des milliards pour la population de Pierre-Bénite. Hein.
Tous ces espoirs reposent désormais sur une action judiciaire de masse. Objectif, que 500 victimes potentielles des PFAS dans la région lyonnaise demandent en même temps des réparations financières aux entreprises Arkema et Daikin. Des réparations pour de multiples préjudices subis concernant la santé, le moral ou encore une perte de valeur immobilière par exemple. Alain a déposé son dossier. Après avoir fait une prise de sang, il s'est aperçu être contaminé en regardant les microgrammes de PFAS présents par litre de sang.
Donc moi je suis à 22,6. Quand vous regardez la grille donnée par le laboratoire, en fait, au-dessus de 20, il y aura des problèmes sur la santé. Ceux qui ne sont pas le plus proche de l'usine, comme nous par exemple, à 1,5 km, ils ont l'impression quand même soit d'avoir échappé au problème. On a quand même un sérieux doute sur la qualité désormais des légumes qui nous sont fournis, alors les légumes, les œufs.
Cette action au civil sur les PFAS est une première en France. Louise Chance est avocate spécialiste du droit de l'environnement au cabinet Kaizen. Il s'occupe de potentielles victimes de contamination aux PFAS.
L'idée, c'est qu'on crée de la jurisprudence qui ait vraiment beaucoup d'impact et que ça amène les entreprises à ne pas faire des décisions comme celle qui a été prise par Arkema notamment, c'est-à-dire de savoir qu'il y a une pollution très grave qui est en train de se passer et de continuer pour faire des profits. L'idée, c'est que ça leur coûte tellement cher que la prochaine fois, dans leur décision business et dans leur comité de pilotage, ils se disent « Ok, c'est pas possible de réagir comme ça, faut préserver l'environnement et la santé, sinon la population va faire des actions en justice qui vont nous coûter très cher. »
Selon l'avocate, cette action judiciaire de masse est unique par son ampleur et pourrait devenir la plus importante d'Europe. Juliette Pietraszewski, de retour de Lyon, RFI.
Et les demandeurs peuvent déposer leur dossier jusqu'au 31 mai.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal de l'Outre-mer qu'on commence sur un constat alarmant en Polynésie. L'ICE, autrement dit la méthamphétamine, serait de plus en plus présente dans les tribunaux. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Violence conjugale, délits routiers, bagarres diverses devant les juges de Papeete. L'ICE revient souvent, trop souvent. Reportage Jules Bourga.
Il y a quelques mois, Timmy a vu son cousin perdre le contrôle à cause de sa consommation d'ICE.
Là, quand il a rechuté, c'est vraiment grave, quoi. Il avait des enfants, une femme, tout. Des fois, la femme, quand elle revenait, il n'y a plus la télé. Le lendemain, quand elle revenait, il n'y a plus la mini-chaîne. Il va à faire. Mais la femme, elle ne savait pas.
S'il a seulement revendu des affaires à lui, certains consommateurs font bien pire, comme l'explique Cathy Godot, présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie.
Dès lors que on ressent le manque, donc pour pouvoir se payer la dose, donc il faut bien trouver l'argent pour en avoir. Donc forcément, donc on va aller voler chez les personnes, on va voler sa propre famille, on va aller voler chez les gens, on va voler tout ce qui va permettre de récolter des fonds pour avoir ce qu'il faut.
Le manque peut aussi conduire à la violence et donc la délinquance.
Quand on est dans un état de manque, la personne elle devient exécrable, invivable, donc plus rien n'existe autour de lui. Donc s'il faut tout casser, même taper sur les parents, sur son entourage familial, pour eux c'est tout à fait normal aujourd'hui. Tout ça c'est lié à l'addiction en fait, c'est le consommateur n'est plus lui-même, tout simplement.
Mais devant la justice, la consommation d'ICE et ses effets ne sont pas assez pris en compte par les juges pour expliquer certains comportements, selon Cathy Godot.
Je pense qu'on minimise, à mon avis, encore les conséquences des effets de l'ICE dans notre société.
Le trafic d'ICE se professionnalise, ce qui veut aussi dire qu'il y a de plus en plus de mules, de revendeurs et de trafiquants susceptibles d'être confrontés à la justice.
On reste, hélas, dans le même domaine. Au lendemain d'un nouveau drame en Martinique, l'exécution en plein jour de 3 jeunes hommes dans une rue de Fort-de-France, le préfet Étienne Desplanques était ce lundi matin l'invité du journal radio de la Première. Au micro de Stéphane Lupon, le représentant de l'État a stigmatisé cet énième fait divers sanglant et il a rappelé que la circulation des armes dans le département des Antilles découlait tout droit, selon lui, du trafic de stupéfiants. Étienne Desplanques a également mis en avant les nouveaux outils dont il va pouvoir se servir, notamment pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale.
La loi sur le crime organisé vient d'être votée. Elle m'offre de nouveaux moyens juridiques, très attendus. Par exemple, la possibilité de fermer tout commerce ou toute entreprise privée qui est liée au blanchiment d'argent ou de trafic de stupes, voire trafic d'armes.
On les connaît, ces entreprises en Martinique ?
J'ai quelques idées, mais jusqu'à présent, je n'avais pas le droit de les faire fermer par voie administrative. On peut imaginer qu'on s'intéressera forcément
au marché... Restauration, établissement de nuit...
Oui, au marché immobilier aussi, marché probablement. Immobilier. Beaucoup au marché immobilier, mais voilà, je ne veux pas jeter l'anathème sur un secteur, mais je sais qu'il y a du blanchiment d'argent qui se fait ici, en Martinique, hein. Et puis aussi, cette loi, elle va permettre de créer un état-major contre le crime organisé qui est en région parisienne, mais à qui j'ai demandé avec mon collègue de Guadeloupe qu'il travaille en priorité sur les questions des Antilles, ce qui va nous donner, je l'espère, une force de frappe supplémentaire en matière d'enquête sur le stupéfiant et aussi sur les armes. Comme j'ai dit, c'est l'une de mes priorités.
Retour dans l'océan Pacifique pour terminer avec cet accord cadre signé ce lundi matin entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les partenaires sociaux du territoire. Accord suite à une conférence fiscale et sociale qui s'est tenue fin avril. Le texte comporte 3 axes, un changement de modèle économique pour le pays, des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat et enfin le retour à l'emploi, le tout avec l'objectif d'améliorer un an après le début des événements de 2024, les conditions de vie des habitants du Caillou, comme l'explique le membre du gouvernement Christopher Gigès au micro d'Éric Dufour.
C'est véritablement un accord sur le quotidien des Calédoniens, sur un changement de modèle potentiel sur le financement de la santé en Nouvelle-Calédonie, où on va étudier la possibilité de transfert vers de la fiscalité. Mais c'est également des mesures très fortes de retour à l'emploi et de soutien du pouvoir d'achat des Calédoniens. On a besoin d'avoir des entreprises qui investissent, qui ont reconfiance dans l'avenir, qui recréent des bénéfices. Et pour ça, il faut de leur donner un cadre qui leur permet de recréer de la richesse. Et cette richesse, on l'a dit, elle doit être mieux redistribuée. Et c'est le sens d'avoir un élargissement du prime d'intéressement dans le dispositif, mais également un travail sur l'impôt sur les sociétés des calédoniennes pour redonner de l'attractivité et montrer qu'aux investisseurs, ils peuvent venir en Nouvelle-Calédonie.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand. Bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Caroline Paré et son invitée s'intéressent ce soir aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et au regard de la société sur elles.
Professeur Papalamine Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de psychopathologie à l'Université Charenta Diop de Dakar. Faire accepter à l'entourage que l'on ne veut pas d'enfants quand on est une femme en 2025, est-ce que c'est un sujet délicat ?
C'est un sujet délicat, je dirais même presque tabou, puisque les sociétés en général dans lesquelles nous vivons, et surtout les sociétés africaines, c'est des sociétés qui sont pronatalistes. Ça veut dire qu'une femme est perçue comme une personne accomplie à partir du moment où on peut l'associer à la maternité, au fait d'avoir des enfants. Et donc, dire qu'on ne veut pas d'enfants, ben, vous êtes regardé de travers, vous êtes jugé, à la limite même ostracisé, parce qu'on ne comprend pas. On peut même remettre en question, en fin de compte, votre intégrité psychique. On se dit que c'est pas du tout normal, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, même, c'est associé à d'autres représentations par rapport à des choses peut-être qui vous arrivent et que vous ne contrôlez pas.
Et cette pression, est-ce que vos patientes vous en parlent en consultation ?
Alors, les patientes ne me disent pas qu'ils ne veulent pas d'enfants. Moi, la plupart du temps, celles que je rencontre, c'est celles qui, à un moment donné, veulent arrêter de donner naissance à des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui se posent, la vie a un peu changé, donc il va falloir gérer. Et on va plus miser maintenant sur la qualité et préserver la famille qu'on a avec soi, plutôt que justement d'avoir d'autres enfants et puis d'être en surcharge.
Merci professeur Papalamine Faye. Aujourd'hui dans Priorité Santé, les conseils d'un médecin du sport, les bienfaits de l'activité physique, le docteur Jean-Marc Sen en direct pour répondre à toutes vos questions au 33 7 61 18 46 41, à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Même chose pour 24 heures en France, à retrouver sur notre site www.rfi.fr. 24 heures en France qui touche à sa fin. Merci au duo dynamique, Valentin Vaner à la réalisation, Charlotte Derouin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, c'est Afrique Soir. Avant cela, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones se décolle de 1161 points et revient à 42 410. L'indice du Nasdaq s'envole de 779 points et atteint 18 708. Wall Street est agréablement surpris par la trêve de 90 jours dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'espoir est que cette désescalade soit confirmée par l'annonce dans les prochains jours d'autres accords commerciaux avec d'autres pays, notamment l'Inde, le Japon ou encore la Corée. Rien ne dit toutefois que l'administration Trump réussira dans sa négociation avec la Chine, négociation qui doit s'engager en vue d'obtenir de réels changements dans la politique économique de Pékin, en particulier à propos des barrières non tarifaires pratiquées par le régime chinois. La trêve va probablement se traduire à court terme par un rebond massif des importations américaines de produits chinois de grande consommation qui sont très populaires au moment des fêtes de fin d'année aux États-Unis. Les sociétés très dépendantes de produits venus de Chine comme Apple, Amazon ou encore Nike figurent parmi les plus fortes hausses au sein du Dow Jones. Le marché obligataire, en revanche, est de nouveau inquiet. La désescalade dans la guerre commerciale va probablement donner une raison supplémentaire à la Réserve fédérale pour ne pas modifier son taux directeur. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte vivement à 4,47. L'euro plonge car le dollar s'envole. La devise européenne termine à 1,1094. Le pétrole américain reprend plus d'1% et finit près de 62 dollars. Le Dow Jones s'envole de 2,8%, le Nasdaq décolle de 4,4%.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram. Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
Tidjane Thiam a démissionné de la présidence du PDCIRDA quelques semaines après sa radiation de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Comprenez-vous sa décision ? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.